Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Le 13-14 est aujourd'hui à Châteaudun, près d'Orléans. 13 000 habitants, c'est la ville qui vote traditionnellement comme le reste de la France. Et au lendemain du débat, ce qui revient de manière frappante sur le marché ici, c'était marché ce matin, qu'on ait regardé ou pas la télé, eh bien c'est le manque total d'enthousiasme.
Ça sert à rien, de toute façon c'est très bien ce qu'ils vont dire. C'est toujours la même chanson, c'est toujours le même rituel. Donc là maintenant je pense qu'entre la peste et le choléra, il va falloir choisir cette fois, mais bien.
La sous-préfecture de l'Eure-et-Loire, ville miroir de la France à 3 jours du vote. Reportage et interview ici entre le bistrot où nous sommes installés et les étals du marché. Une certitude, quel que soit le vainqueur dimanche, il ou elle aura beaucoup de travail pour embarquer les Français. Le débat à la fin de campagne, ce sera aussi une longue page du journal à Paris. Et c'est avec vous Corinne Audouin.
Bonjour Bruno et bonjour à tous. Vous étiez 15 millions et demi devant votre télévision hier soir. C'est moins qu'en 2017, mais le débat de l'entre-deux-tours reste l'un des marqueurs de la vie politique en France. Au-delà de l'affrontement plus feutré qu'il y a 5 ans, Emmanuel Macron et Marine Le Pen parlent à deux France que tout oppose. Décryptage dans ce journal. Et puis on a passé un coup de téléphone à Gérard Majax. Le magicien star des années 80 a fait une apparition inopinée dans la bouche du président sortant hier soir. Marine Le Pen dans la Somme, Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis, terrain conquis pour elle, territoire plutôt hostile pour lui. Les candidats sont repartis dardard à la pêche aux dernières voix. Et puis cette fois, Mariupol est tombé. Vladimir Poutine annonce la chute de la ville, symbole de la résistance ukrainienne qui était assiégée depuis 2 mois.
Beaucoup plus léger, Happy Birthday, la Queen, 96 ans aujourd'hui. En France, J-3 avant le vote, le 13-14 est entre Paris et Châteaudun. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Châteaudun, sa rue de la République commerçante, son château avec une sainte chapelle, sa place du marché juste devant nous. C'est une petite ville à la campagne, à 1h30 de route de Paris. Le maire sans étiquette dit c'est le pays réel, la France qui a une maison, qui travaille, un enfant au collège, 2 voitures. Autre particularité, c'est pour ça que nous sommes ici, c'est une ville qui vote comme le reste de la France à la présidentielle. Alors est-ce que le débat hier soir a fait bouger les lignes? On voit cela dans un instant à Châteaudun. Un constat d'abord, l'audience nationale de ce débat à la télévision n'a pas été très bonne. Bonjour Alexandra Kuhn.
Bonjour Bruno.
Spécialiste média à France Inter, audience inférieure au débat 2017.
Mais oui, hein, près de 15,6 millions de téléspectateurs hier soir selon Médiamétrie. Pour une part d'audience, toute chaîne confondue, de 68,3 points. C'est pas compliqué, c'est le pire score d'audience jamais enregistré pour un débat de l'entre-deux-tours. Alors que 2017 avait déjà été le pire cru depuis 1974, avec près de 16,5 millions de personnes devant leur télé. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraisemblablement hier soir, les courbes sont restées assez stables toute la soirée. Ça veut dire que ceux qui étaient devant leur poste n'ont pas décroché. Les autres, eh bien, ils étaient peut-être sur Twitch, car pour la première fois hier, 4 chaînes de la plateforme de streaming diffusaient le débat. Elles ont récolté au total 2,7 millions vues, avec un pic à 22h15, avec 280 000 connexions simultanées. Alors peut-être des jeunes de Châteaudun, non Bruno?
Écoutez, on verra ça. En tout cas, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le débat a fait bouger les lignes? Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Jeudi matin, c'est donc marché à Châteaudun. Vous avez discuté politique avec les commerçants, avec les clients, et le débat n'a pas changé grand-chose pour eux.
Ce matin, dans les allées de ce marché de Châteaudun, on parlait évidemment de politique un peu, et de ce débat qui semble avoir figé les opinions. Les électeurs d'Emmanuel Macron, à l'image d'Agnès, ancienne prof d'anglais, soulignent les compétences du président sortant, sa maîtrise des dossiers, notamment sur le plan économique.
J'ai trouvé mon candidat plutôt bien meilleur que Mme Le Pen, qui était quand même toujours assez floue. À chaque fois qu'elle propose quelque chose, il est capable de lui démontrer que ça ne marchera pas, enfin, que ça ne va pas avoir l'effet attendu. Enfin, on le sait sur la TVA, on l'avait vu avec les restaurateurs. Et là où j'ai trouvé Emmanuel Macron très fort, c'est-à-dire que bon, il avait un bilan. Et finalement, il a retourné la situation. Pendant la crise sanitaire, pour l'Ukraine et tout ça, il n'y a pas photo, il a su réagir, il a une stature d'homme d'État qu'elle n'a pas.
En revanche, Yann Gallic, du côté des partisans de Marine Le Pen, on n'a pas apprécié l'attitude d'Emmanuel Macron.
Ce débat d'entre-deux-tours a renforcé en effet l'image d'un président méprisant et surtout éloigné des préoccupations des Français.
Excusez-moi de dire ça, mais c'est un faux cul, très arrogant. Il n'est pas honnête envers son peuple.
Et Marine Le Pen?
J'aime bien, et c'est pour elle que j'ai voté.
Et vous l'avez trouvé plutôt bien dans ce débat, Marine
ouais.
Le Pen?
Ouais. Au niveau des retraités, au niveau des personnes âgées, je trouve qu'elle a bien travaillé là-dessus. Et puis au niveau de pouvoir d'achat aussi, elle a bien su répondre. Et elle, moi, s'est dérangée partout voir les petits producteurs, a été voir partout, dans les fermes et tout, que l'autre n'a jamais bougé son cul.
Et puis il y a ceux qui n'attendent plus rien de cette présidentielle, les désabusés comme René.
Je ne vais pas voter ni pour la peste, ni pour le choléra.
Donc ce débat n'a pas infléchi votre opinion ?
Non, je vais aller voter blanc pour dire que je vais voter. Mais je vote contre les deux.
Parmi les gens que nous avons croisés sur ce marché, ils sont finalement assez nombreux à vouloir s'abstenir, voire ne pas aller voter du tout pour le second tour.
Marché dont les commerçants sont en train de replier leurs stands. En revanche, au bistrot où nous avons installé notre studio, les tables sont sérieusement remplies désormais. Voilà pour ce premier regard sur ces tout derniers jours avant le vote vu de Châteaudun. On se retrouve tout à l'heure. Corinne Audouin, vous êtes en studio à Paris pour le journal de 13h. Les candidats sont déjà repartis en campagne.
Oui, pas de temps à perdre en effet, Bruno, puisque la campagne officielle pour le deuxième tour se termine demain soir à minuit, avant la traditionnelle période de réserve jusqu'au scrutin dimanche. Pour les deux candidats, il faut plus que jamais se frotter à la France réelle et repartir à la conquête de l'électorat populaire. Marine Le Pen a choisi d'aller dans les Hauts-de-France, où elle est arrivée en tête du premier tour, dans les 5 départements, sur ses terres de prédilection, donc, Élodie Forêt.
Oui, on ne change pas une méthode qui a fait recette ces derniers mois, se rendre sur des terres favorables, faire de belles images à base de selfies et d'embrassades. Ce midi, rendez-vous a donc été donné dans un routier à Roye, entre Paris et Arras, à la rencontre, nous dit-on, de la France qui bosse, cette France active que Marine Le Pen espère convaincre. Une halte avant de se rendre ce soir à Arras pour le tout dernier meeting de campagne. Arras, îlot macroniste dans un département, le Pas-de-Calais, où la candidate RN fait de très bons scores. Arras, où Marine Le Pen jettera ses dernières forces après un débat que l'on n'a ni gagné, ni perdu, résume un cadre.
Merci Élodie Forêt. Emmanuel Macron, lui, est attendu en Seine-Saint-Denis, où le taux d'abstention au premier tour a battu des records. La Seine-Saint-Denis qui a largement voté pour Jean-Luc Mélenchon, un territoire plutôt hostile donc pour le président sortant, Simon Le Baron.
Oui, c'est vrai, Corinne, mais encore plus hostile à son adversaire. Et précisément, c'est ce contraste qu'Emmanuel Macron vient chercher sous le soleil de Saint-Denis. Il devrait arriver d'ici un quart d'heure. Ce qu'il veut, c'est montrer que lui peut aller partout, aussi bien dans les campagnes, il sera demain dans le Lot, que dans les banlieues où Marine Le Pen ne met strictement jamais les pieds. Le président sortant va donc prendre tout son temps, faire la tournée des terrasses, on est d'ailleurs sur l'une d'elles en ce moment, discuter, échanger avec les habitants, pour beaucoup issus de l'immigration, et qui seraient les premières victimes de l'extrême droite au pouvoir, avertissent une quinzaine de maires de gauche du 93, dont le local Mathieu Hanotin, le maire PS de Saint-Denis, qui appelle avec ses collègues à voter Macron pour faire barrage à Le Pen. Ces banlieues, donc, qu'Emmanuel Macron veut séduire aujourd'hui, in extremis, à l'avant-dernier jour d'une campagne où l'on n'aura quasiment jamais parlé des quartiers populaires.
Merci Simon Le Baron. Et puis on apprend qu'Emmanuel Macron, s'il gagne l'élection, a déjà prévu de prendre la parole au soir du second tour au Champ de Mars. C'est à Paris, dans le 7e arrondissement. À travers l'affrontement entre les deux finalistes, le débat d'hier soir a opposé deux visions de la France et aussi convoqué quelques références inattendues, comme ce nom, arrivé sans crier gare dans la bouche d'Emmanuel Macron. C'est pas Gérard Majax ce soir, a dit le président sortant, pour contester les propos de Marine Le Pen sur les chiffres du chômage. Une sorte de variante de la poudre de perlimpinpin, expression qu'il avait employée en 2017. Car Gérard Majax, les plus jeunes l'ignorent peut-être, est magicien. Star de la télé dans les années 80, la réapparition lui a plutôt fait plaisir. Il était devant sa télévision hier soir.
Ah ben, je suis évidemment surpris, scotché. Je suivais pour un intérêt politique cette émission et puis tout d'un coup, j'ai cru rêver d'entendre mon nom, mais c'est sympathique. Ça veut dire que lui qui est très jeune et qui n'a pas connu mes émissions, enfin, il a connu les dernières et donc c'est bien, c'est sympathique que la magie s'insère dans le débat politique, alors que le débat politique a beaucoup d'illusions, comme d'habitude.
L'inoxydable Gérard Majax avec Ajra Mohamed. Voilà pour l'un des moments cultes qui resteront de ce débat. Et au-delà de l'anecdote, ce deuxième débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen redessine le paysage politique français qui s'était organisé pendant des années autour de la droite et de la gauche dans un duel entre LR et le PS. Deux candidats qui représentent deux France que tout oppose en termes géographiques, sociologiques, culturelle. C'est l'analyse du politologue Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Il était l'invité de Nicolas Demorand ce matin.
Marine Le Pen a énormément surjoué la proximité avec, j'allais dire, la France du terrain. Elle a pris des exemples très concrets en disant sur une cuve de fioul à 2000 euros. Et Emmanuel Macron était lui aussi a essayé de descendre, mais il était un peu moins à l'aise. À un autre moment, on parle de la... pourquoi il n'y a pas d'Amazon, Google français. Et Marine Le Pen explique que la France est en train de s'ubériser avec la création de petits jobs, de livreurs ou autres, qu'il dit qu'il faut éminemment respecter. Et Emmanuel Macron, lui, parle des licornes françaises. Et donc, on voit bien qu'on est sur deux registres, deux visions des choses. Et en fait, de manière plus ou moins subliminale, on parle à deux France. Si on caricature un petit peu, on a une France très cadre, qui a fait des études supérieures, qui a plus de 35% à voter pour Emmanuel Macron. De l'autre côté, on est à front renversé complètement, avec 35% des ouvriers et des employés qui ont voté pour Marine Le Pen au premier tour, et seulement 14% des cadres et des professions intellectuelles.
Jérôme Fourquet sur France Inter ce matin. Avec nous dans ce studio pour tirer les enseignements du débat, Yael Gauz, bonjour.
Bonjour Corinne.
Chef du service politique de France Inter. Alors, on l'a dit, le débat était plus policé qu'il y a 5 ans, moins d'invectives et donc plus de fond. Et chacun a pu clarifier ses propositions et développer son projet pour la France.
On a bien vu se matérialiser deux visions, Corinne. Européano-centrée, dit de son adversaire Marine Le Pen, totalement assumée par Emmanuel Macron. C'est son marqueur et ça a infusé tout au long du débat. L'Europe, cette copropriété dont on ne peut pas ripolliner la façade, pour reprendre sa formule, mais dans laquelle la France serait plus forte pour gérer la crise en Ukraine, faire le quoi qu'il en coûte, ou créer un champion du numérique. A contrario, côté Le Pen, une France qui doit reprendre le contrôle, pour paraphraser Boris Johnson, au service de celles et ceux qui souffrent. Il n'y a pas de peuple européen, dit Marine Le Pen, donc il n'y a qu'une souveraineté française. Préférence nationale pour l'emploi, les aides sociales, interdiction du voile, des référendums le plus souvent possible, vive le RIC, le peuple pour recoudre le pays, dit-elle, quoi qu'il en coûte pour l'état de droit.
Alors deux visions, Yael, mais qui ne couvrent pas tout le spectre politique.
Non, et les audiences mauvaises, historiquement basses, on en parlait au début du journal, le montrent bien. Potentiellement, abstentionniste plus vote Mélenchon du premier tour, ça fait un électeur sur deux que ce duel n'intéresse pas. Alors, qui a élargi son socle hier soir? Difficile à dire. Marine Le Pen n'a pas bien vendu ses mesures pouvoir d'achat et sa retraite à 60-62 ans. Emmanuel Macron, tout occupé à contrer son adversaire, ne nous a pas davantage éclairé ni sur les retraites, ni sur le contenu de son virage écolo. La politique est devenue une affaire d'empathie, de ressenti, et ça, ce n'est pas le point fort du président sortant.
Merci Yael Gauz, vous aussi c'est votre dernière ligne droite jusqu'à l'élection dimanche soir.
Il est 13h13 sur France Inter. Corinne Audouin, la suite du journal. En Ukraine, la fin de près de 2 mois de résistance héroïque.
Cette fois, Marioupol est tombée. Annonce ce matin du ministre de la Défense russe. Et le président Vladimir Poutine salue le succès de son armée. Alors même si selon Moscou, 2000 combattants ukrainiens sont toujours retranchés dans le site industriel d'Azovstal, le pouvoir russe considère qu'il a gagné à Marioupol. Bonjour Nathalie Le Charbonnier.
Bonjour.
En effet donc, victoire annoncée par Vladimir Poutine.
Alors cette victoire précipitée de Vladimir Poutine est assez révélatrice de l'enjeu qui existe autour de cette ville et de son impatience à la conquérir, car techniquement, vous l'avez dit, Marioupol n'est pas totalement tombé puisqu'il existe toujours une poche de résistance ukrainienne, mais qu'importe. Pour le président russe, c'est fait. Pour lui, la libération de la ville est un succès. Et pour le prouver, il a mis en scène ce matin sa déclaration. On le voit dans son bureau, assis en face de son ministre de la Défense qui vient lui donner son rapport sur la situation. Il l'écoute un instant, puis il prend la parole en saluant la victoire et la libération de la ville et en se montrant dédaigneux pour les derniers militaires ukrainiens qui résistent encore.
Je considère que l'assaut envisagé dans la zone industrielle n'est pas approprié. J'ordonne de l'annuler. Il faut penser à la vie et à la santé de nos soldats et de nos officiers. Il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes et ramper sous terre à travers ces bâtiments industriels. Il faut bloquer toute cette zone de manière à ce que même une mouche ne puisse pas passer.
Voilà Poutine qui revendique la victoire de Marioupol, mais à quel prix? La ville portuaire a été attaquée dès le début de la guerre, c'est-à-dire dès le 24 février dernier. Elle a été assiégée, bombardée sans relâche. On l'a détruite à plus de 80%. Poutine l'a conquise au prix d'un coût humain terrifiant, même s'il est encore impossible de donner des chiffres sur le nombre de victimes, civiles et militaires. Mais voilà, c'est le trophée qu'il attendait, qui justifie selon lui le déclenchement de cette guerre. Marioupol tombé, il va poursuivre maintenant son offensive. dans le reste du Donbass.
Merci Nathaël Charbonnier de la rédaction internationale de France Inter. Une nouvelle salve de roquettes tirées ce jeudi depuis la bande de Gaza en direction d'Israël. Interceptées, elles n'ont pas fait de dégâts. Plus tôt, Israël avait répliqué un précédent tir de roquettes en lançant des frappes aériennes sur le territoire palestinien. Des échanges de tirs qui font craindre une nouvelle escalade militaire dans la région.
13h15 sur France Inter, retour à la politique. Comme chaque jour dans ce 13-14, une comparaison des programmes des deux candidats sur un point précis. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Ici à Châteaudun, on est très sensible aux mesures que peuvent proposer les candidats pour les territoires et les campagnes. Alors que contiennent leurs programmes ?
Eh bien, Marine Le Pen s'engage à créer un ministère de la ruralité, un ministère transversal chargé également de l'aménagement du territoire. Elle veut lutter contre ce déséquilibre entre, d'un côté, les métropoles qui concentrent toute l'activité économique et de l'autre, les villages et les petites communes où, je cite, des déserts s'installent. Et ça passe pour elle par une redistribution de l'argent public. Donner moins aux banlieues et plus aux territoires ruraux, elle l'assume. Pour encourager les entreprises à s'installer dans les zones dites en tension, elle leur propose un avantage fiscal, l'exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Redynamiser la vie économique dans les campagnes, c'est aussi une ambition d'Emmanuel Macron. Le président candidat compte amplifier les pactes territoriaux avec les élus locaux, un accompagnement de l'État et une aide financière à leurs projets, l'accélération de la fibre optique par exemple. Il compte aussi développer les maisons France Service mises en place sous son quinquennat qui regroupe différents services publics.
Et puis autre enjeu majeur, la revalorisation du métier d'agriculteur.
Oui, les deux candidats s'engagent à aider les agriculteurs à s'installer, sachant que dans 10 ans, 1 sur 2 pourra partir à la retraite. Pour cela, Emmanuel Macron souhaite renforcer l'enseignement agricole, faciliter l'accès au foncier. Il prévoit une loi d'orientation et d'avenir pour ce qu'il appelle la troisième révolution agricole. L'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, c'est une priorité pour Marine Le Pen. Elle compte puiser davantage dans le budget européen de la PAC, la politique agricole commune. L'État aiderait aussi à l'acquisition des terres.
Bruno. La campagne électorale. Merci Mariam El Kurdi. Vu de Châteaudun, on revient dans la sous-préfecture de Eure-et-Loir dans une poignée de minutes. Pour l'instant, la suite de votre journal, Corinne Audouin.
Un plan social chez Scopelec. 800 salariés sont visés sur un total de 3600 emplois. Le sous-traitant est en difficulté depuis la perte d'un gros contrat avec Orange, qui représentait 40% de son chiffre d'affaires. Dans l'affaire des biens mal acquis, 4 enfants d'Omar Bongo sont mis en examen en France. 3 filles et un fils du président gabonais défunt sont soupçonnés d'avoir sciemment possédé des appartements parisiens qu'ils savaient provenir de la fortune frauduleuse de leur père. Et puis ça fait partie des événements qui n'ont pas survécu au Covid. Adieu le Salon du Livre et bienvenue au Festival du Livre de Paris. C'est le nouveau nom de ce rendez-vous annuel de l'édition qui ouvre ses portes demain pour 3 jours au Grand Palais éphémère près de la Tour Eiffel. Le Salon du Livre n'a donc pas survécu à 2 annulations pour cause de Covid. La nouvelle formule est un festival gratuit sur inscription préalable, avec les dédicaces, mais aussi des lectures, des concerts, des expositions. La plupart des grandes maisons d'édition seront présentes, notamment les deux premières, Hachette et Editis, à la veille d'une probable fusion qui va bouleverser le secteur de l'édition. Sébastien Sabiron.
Avec l'OPA lancé par Vivendi et Vincent Bolloré sur le groupe Lagardère, Hachette et Editis, les deux géants français du livre, pourraient fusionner. Situation quasi monopolistique pour le milliardaire breton. Pierre Dutilleul, le secrétaire général du syndicat national de l'édition, évoque le dossier à mots choisis.
On n'a pas de cas où l'actionnaire intervient sur la politique éditoriale d'une maison. Et pourquoi de telle maison plutôt que de telle autre ? En revanche, c'est peut-être un accès au marché qui peut inquiéter des auteurs.
Signe au nom d'une certaine fébrilité, des auteurs s'émancipent et créent leur propre maison d'édition. Éric Zemmour, remercié par Albin Michel, Riyad Satouf pour sa nouvelle série Le Jeune Acteur, ou plus récemment le Suisse Joël Dicker, un très gros vendeur, mais qui devra bien s'entourer, estime Jean-Yves Mollier, historien de l'édition.
Comment va-t-il faire à un moment pour trouver un éditeur au Japon, pour trouver un éditeur en Chine, pour trouver un éditeur en Grande-Bretagne, aux États-Unis ? C'est un travail à plein temps.
Car cette tentation de l'auto-édition ne porte pas toujours ses fruits, même pour des auteurs de best-sellers. Stephen King s'y était cassé les dents il y a 20 ans, Jean-Yves Mollier.
Ils ont l'impression qu'au fond, eux seuls font le travail. Si l'édition consistait simplement à remettre à l'imprimeur le texte, alors on pourrait dire que les auteurs ont raison. Mais non.
Et si les grandes maisons restent sereines face à ces bouleversements, l'inquiétude est palpable chez les éditeurs indépendants qui déjà, faute d'accord financier, bouderont pour la plupart le Festival du Livre de Paris.
Et pour aller voir votre auteur favori, l'ouverture c'est au public, c'est demain. Attention, inscription obligatoire en ligne sur le site du Festival du Livre de Paris. Avant de retourner à Châteaudun, un mot pour vous dire merci à vous, auditeurs. France Inter reste de loin la première radio de France. Vous êtes 6 906 000 à nous écouter tous les jours. C'est 180 000 auditeurs de plus qu'il y a un an. Votre confiance nous honore et nous oblige. Toutes les tranches d'informations sont en tête, et notamment évidemment le 13-14 de Bruno Duvic.
Et oui, vous êtes plus d'1 800 000, tiens, à écouter le 13-14. Immense merci à vous. 13-14 donc à Châteaudun aujourd'hui, une ville qui vote comme la France. D'abord la météo dans un instant.
Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux.
Pour une bonne viande de bœuf Label Rouge, c'est simple. Il faut des animaux de nos terroirs, bien élevés, tout au long de l'année. Et puis aussi des éleveurs qui font leur métier avec passion et exigence. Et le plaisir, il est là, dans l'assiette.
Et donc vous êtes éleveur ?
Pas du tout, je suis artisan. Mais manger mieux, ça me parle. Et offrir une juste rémunération à nos éleveurs aussi. Pas vous ?
Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Elodie Cadac, c'est perturbé au sud, c'est ensoleillé au nord.
Oui, du nord de la Seine vers la Normandie, le bassin parisien, le Grand Est, le soleil est là. Quelques nuages tout de même, des Ardennes au nord de l'Alsace. De la Bretagne et des Pays de la Loire vers la Franche-Comté, ça devient un peu plus nuageux avec une averse possible sur le Jura, sur la Bretagne. En allant vers le sud, là, nuages et averses parfois orageuses au menu. Sur le Roussillon et sur la Corse, les pluies sont plus soutenues. Le thermomètre reste timide sur le sud-ouest avec seulement 12 à 18 degrés. Ailleurs, comptez 16 à 21 degrés, 16 à Cherbourg, 20 à Lille, à Nantes, à Châteaudun, 21 degrés à Paris et à Lyon. Demain, on aura des températures agréables partout, des éclaircies et quelques averses orageuses l'après-midi dans le sud et près de l'océan.
Élodie Calac, Météo France, l'avant-second tour vu de la sous-préfecture d'Eure-et-Loire. C'est jusqu'à 14h sur France Inter.
France Inter, le 13-14.
Le jeudi, c'est jour de marché à Châteaudun. Nous avons parcouru ce marché ce matin. Petit échange glané ce matin. Avant de retrouver nos invités ici au restaurant Le Bistrot, où nous sommes installés tout près justement de cette place du marché, au micro de Sarah Guibaudot, échange entre deux clientes d'un primeur. Elles ont regardé le débat hier soir et au marché, elles regardent les prix de très près.
Je vais prendre des pommes. M'en mettez trois.
Il y a les asperges qui viennent d'arriver.
Oui, mais c'est trop cher pour mon porte-monnaie, donc...
Alors 704, chère madame.
Moi, j'ai une petite retraite, j'ai pas toujours travaillé, donc...
Là, vous faites la queue au primeur, mesdames. Est-ce que vous avez vu les prix augmenter ces derniers mois ?
Bah oui.
Ah bah tout, hein.
Les fruits et légumes, hein, l'essence, tout, hein.
J'achète un kilo de tomates, puis ça y est, on n'a plus rien.
Est-ce que le pouvoir d'achat, du coup, c'était un sujet important pour vous dans cette campagne ?
Oui, oui. Le pouvoir d'achat, les retraites...
Les médecins de proximité, tout ça, voilà. Moi, ça fait un an que je suis ici, je peux pas avoir de médecin, pas de dentiste.
Bon, vous étiez en train de discuter du débat, c'est ça ? Vous l'avez regardé toutes les deux ?
Ah bah oui, oui.
Je me suis endormie à la fin. C'était long, hein.
Mais, donne pas mon opinion, mais quand même, Macron, c'est autre chose, hein. Je la vois pas trop au pouvoir, quand même. Bah, c'était intéressant quand même, hein, parce que bon, on a appris des trucs qu'on n'était pas au courant, comme l'argent qu'elle a, l'emprunt qu'elle a fait en Russie.
Une banque russe, oui. Et elle est mal placée pour, voilà. Pour donner son avis sur la Russie. Hein.
Ça va jouer peut-être un peu. On attend dimanche.
Et premier invité de ce 13-14 ici à Châteaudun, le maire de la ville, Fabien Verdier. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Verdier, maire sans étiquette, hein, je le précise, puisqu'on regarde les temps de parole de très près. Ce qui nous a frappé ce matin au marché, c'est le manque d'enthousiasme de beaucoup de gens, que ce soit les commerçants, que ce soit les clients. Après le débat, avant le second tour, vous le ressentez aussi ce manque d'enthousiasme ?
Oui, malheureusement il y a un manque de débat de fond, ça a peut-être pas assez duré longtemps cette campagne, plusieurs mois, on aurait dû avoir plusieurs mois, c'est structurant, c'est stratégique sur les affaires internationales, intérieures. Ouais. On aurait aimé ça, les Dunoises et les Dunois, et puis je pense les Français également.
Voilà, on dit les Dunoises et les Dunois à Châteaudun. Voilà qui est précisé. Le côté, la distance par rapport à la politique, là aussi, vous le ressentez ?
Oui, un rejet, je vous le disais hier. Les citoyens attendent des résultats, de l'efficacité, de l'efficience de l'action publique et ils ne la retrouvent pas assez au niveau national et parfois au niveau local.
C'est vrai qu'on vous a entendu en début de semaine et il y a un détail qui m'a frappé. Vous disiez ce qui est important, c'est de voir les résultats et de les voir vite. Et entre quelquefois le timing de la politique et le délai qu'attendent les électeurs, il y a une différence et ça c'est mauvais pour la politique.
Oui, il y a peut-être trop de bureaucratie dans notre pays, trop de normes, trop de règles. Moi, je le dis souvent, il faudrait qu'on puisse annoncer quelque chose en mars d'une année et puis l'inaugurer en octobre ou novembre de la même année. Ouais. Ça serait raccourcir le temps de l'action publique, collectivement, tous ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là au niveau de la France.
Quelles autres pistes pour rapprocher les électeurs de la politique plus globalement?
Je vous le disais hier aussi, je pense qu'il faudrait davantage élire pas que les maires, pas que les députés, pas que le président de la République, peut-être le patron de la gendarmerie locale, peut-être le directeur de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a un lien fort entre des services publics structurants, la sécurité, la santé, et le peuple, le démos.
Que tous les responsables du service public, au fond, aient à rendre des comptes.
Oui, à rendre des comptes, fassent des professions de foi, tous les 3, 5 ans, 6 ans, et se présentent devant les citoyennes et les citoyennes qui jugent, qui jaugent leur action et qui demandent des précisions ou qui les reconduisent.
On est venu chez vous parce que c'est la ville qui vote comme la France. En quoi c'est une France en miniature, Châteaudun?
Parce que Châteaudun, c'est une ville d'industrie. On a fait un livre sur 2 siècles d'industrie à Châteaudun. C'est un avec la Safran, avec Hutchinson, avec plein d'entreprises. Vous auriez tout à l'heure dans l'aéronautique avec Ossature. Parce qu'on a l'agriculture avec la Beauce. Et donc, on incarne la France. Moi, depuis que je suis en fonction en juillet 2020, on a accueilli beaucoup d'investissements privés. Plus de 260 millions d'euros d'investissements privés dans le Grand Châteaudun. La France aussi en attire. Et donc, on incarne cette France qui a des beautés. On a le Loir, on a un capital touristique. Et l'idée, c'est de mettre en valeur tout cela. Et je pense qu'on incarne la France aussi de ce point de vue-là, en étant une ville moyenne d'un peu plus de 13 000 habitants.
Et le côté petite ville à la campagne, vous avez à la fois les préoccupations des habitants des villes et des habitants des zones rurales.
Tout à fait. Châteaudun, c'est une zone urbaine, c'est une ville moyenne. Et on attend des villes moyennes. Elles sont structurantes. Moi, je pense aux 233 sous-préfectures de France. Je pense que c'est elles qui structurent le pays. Et c'est cette France-là qu'il faut demain promouvoir dans les politiques publiques.
Et puis, c'est la France, dites-vous, j'ai vu ça dans la presse, c'est la France, au fond, un enfant au collège, 2 voitures, la France qui travaille, la France moyenne, en quelque sorte, on peut le dire comme ça.
Tout à fait. La France qui regarde, qui va chercher sur le marché les meilleurs prix, la France qui paye son essence à 1,80€ le litre actuellement, qui a 2 voitures, cette France du pouvoir d'achat, qui le demande au pouvoir public aujourd'hui, du pouvoir d'achat. Je veux pouvoir vivre, je suis un revenu moyen, je suis un revenu médian, je gagne 1300€ net par mois, 1400€ net par mois et j'ai besoin de vivre et de m'épanouir dans ma vie.
Et le sujet de préoccupation, c'est ça, c'est le pouvoir d'achat, le principal.
Le pouvoir d'achat, bien sûr, la santé et puis les mobilités.
On est à 1h30 de Paris, vous attirez des Parisiens particulièrement depuis le Covid ici à Châteaudun.
Oui, on s'est mis dans le programme Paris je te quitte, on a fait une baisse massive des impôts, on a baissé 13% les impôts fonciers à Châteaudun, on attire des franciliens et je vous le disais, 260 millions d'euros d'investissement privé dans le Grand Châteaudun, c'est ce qui fera la croissance de demain de notre territoire, du sud de l'Eure-et-Loire et les emplois d'après-demain.
Et vous me disiez que le travail d'un maire, par exemple, ce matin, vous aviez une réunion pour
des investisseurs récupérer pour le territoire. Et on a déjà 40 CDI à pourvoir dans le territoire, on a des médecins et il faut continuer dans cette dynamique.
Et on en manque un peu de médecins quand même.
Il en manque un peu, mais on y travaille et ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Il y a des maisons à 150 000 euros avec jardin.
C'est noté, on en reparlera tout à l'heure avec nos autres invités. Le temps de rejoindre notre table là, qui est installée dans le restaurant Le Bistrot entre la Cible de Fléchette, le billard et le baby foot. Vous faire écouter un autre écho sonore du marché ce matin. Cet échange, le premier qui parle, c'est Hamid. Il vend des fruits et légumes.
Macron.
Pourquoi Macron?
Parce que j'ai pas le choix.
Pourquoi vous n'avez pas le choix?
À cause de mes origines, je peux pas voter Marine Le Pen. Le Pen, elle veut me virer, alors j'ai pas voté pour elle.
Et vous, monsieur, vous appelez comment?
Florian.
Florian, et vous faites quoi?
Moi, je suis en vente de bijoux, là.
Ah, juste en face, le stand en face, ok. Et vous allez voter pour qui?
J'hésite, soit les deux, soit Marine Le Pen.
Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Qu'est-ce qui vous ferait choisir Le Pen?
Que ceux qui ont pouvoir domicilier en France soient plus là.
Pourquoi?
Parce que madame, elle s'est fait voler son sac à main par une personne comme ça.
Madame, c'est votre femme?
Oui.
Non, tu m'as dit que tu savais pas qui c'était.
Il a pris 8 mois. Il
est par là. Bon, en tout cas, Hamid, il vous disait, vous avez l'air copain. Vous êtes en face de... Hamid vous disait, si tu votes Le Pen, elle va me virer. Qu'est-ce que vous lui dites?
Mais c'est pas vrai. Tant qu'il travaille, elle a bien dit, toutes les personnes qui travaillent ne vont pas quitter la France.
Mais non. Mais je te garantis, elle est du Front National, elle est l'extrémiste. Elle a ça dans le sang, elle sera comme elle était avant.
Voilà pour cet échange capté ce matin au marché sur le vote de second tour. D'autres paroles d'électeurs dans les minutes à venir ici au restaurant Le Bistrot. Autour de la table, Aurélie Sourcin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes serveuse et agent commercial pour un opérateur téléphonique. On s'est croisé ce matin sur le marché. Bonjour Olivier Fabre.
Bonjour.
Chef d'entreprise, votre entreprise s'appelle Ossature Production. Vous êtes à Châteaudun, vous avez 61 ans. Aïcha Aïtsouman, bonjour à vous.
Bonjour.
Aide à domicile, 58 ans depuis 20 ans à Châteaudun. Et David Faucheux, bonjour.
Bonjour.
C'est réalisé à Thiville, tout près d'ici, et vous êtes vice-président de la FNSEA d'Eure-et-Loire. Aurélie, je le disais, on vous a croisé ce matin sur le marché. Vous avez accepté de nous rejoindre ici. Quelques mots pour vous présenter. Vous avez 24 ans et deux emplois à mi-temps. Pourquoi cela? Racontez-nous.
Eh bien, tout simplement parce que donc avant j'étais serveuse en bar tabac qui faisait restauration pour les entreprises et avec la crise du Covid, forcément les entreprises se sont adaptées, donc il y a beaucoup moins de personnes qui viennent manger au restaurant.
Ouais.
Les passes sanitaires à l'époque, les gars de chantier ne les avaient pas tous forcément. Donc forcément ça nous a beaucoup impacté, on a dû arrêter la restauration et du coup je continue toujours le service en bar, ça y est, ça continue, mais forcément du coup on réduit un petit peu les heures.
Ça fait pas un plein temps et du coup vous complétez en étant sur le marché pour un opérateur téléphonique. Vous avez regardé le débat hier ?
Oui, bien sûr.
Alors ?
Eh bien, c'est un débat assez constructif quand même. Hein. Il fallait bien écouter les deux parties.
Vous avez tout écouté, pas de moment de creux. Vous n'êtes pas un peu endormi?
Un petit peu à la fin. Bon. À la fin, j'ai pas tout suivi, mais surtout le début qui était quand même très important.
Oui.
Et voilà pour le début. Donc, moi, tout simplement, ce que je trouvais, c'est que chacun se débat l'un comme l'autre comme ils peuvent. Après, faut bien écouter ce qu'ils disent. Chacun a ses opinions,
oui.
Certes. Mais par contre, voilà, il faut voir comme quoi qu'Emmanuel Macron était quand même très tendu, je trouve. Après, Marine Le Pen se défend bien sur certaines choses. Moi, je sais que je suis beaucoup pour les jeunes. Nous, les jeunes, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas très aisés. Donc, quand on voit un petit peu les prix qui augmentent, les taxes, tout ça, je suis propriétaire d'une maison depuis 2 ans.
Oui.
Et autant vous dire que je vois que ça fait très, très mal quand même.
Et vous, votre choix, il est fait. Vous allez voter Marine Le Pen?
Eh bien, il y a de fortes chances, oui.
Pourquoi cela?
Pourquoi ce choix? Eh bien, comme je vous dis, je suis jeune et moi, je vois l'avenir des jeunes. Et l'avenir des jeunes, je la vois beaucoup plus en Marine Le Pen qu'en Emmanuel Macron.
Vous avez l'impression qu'elle s'adresse davantage à vous?
Voilà. Voilà.
Et du côté d'Emmanuel Macron, quel regard portez-vous? Comment vous le ressentez, le président de la
Alors,
République?
Alors, je le ressens un petit peu, hésitant. Parce que voilà, donc il y a des choses qu'il a dit en 2017 qu'il n'a pas pu faire. Mais ça, c'est normal, on ne peut pas tout faire d'un coup. Hein, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts.
Oui.
Mais par contre, je le trouve plus hésitant quand même parce que du coup, on ne sait pas ce qu'il va vraiment faire ou ne pas faire.
Allez, on va faire circuler la parole. Olivier Fabre, vous qui êtes chef d'entreprise, 15 salariés, c'est ça, chez Ossature Production. Un mot là aussi pour vous présenter le contexte économique. Quel impact a-t-il sur une entreprise comme la vôtre? Vous fabriquez des stands pour des salons ou des boutiques?
Oui, alors nous, on fait surtout des stands d'exposition.
Oui.
Donc, on a été très touchés dès 2020. L'année 2020 était un pire.
Oui, l'événementiel, c'était pas
un vrai cauchemar.
2020.
Ouais. 2021, un peu mieux. Et même le début d'année, encore avec le variant Omicron, janvier-février, elles ont encore repoussé des salons.
Du bois, du plastique, donc tout ça, c'est très impacté par la...
C'est très impacté, oui. À ce moment, on passe beaucoup plus de temps aux achats qu'avant, mais ça fait partie du boulot. Non, ce qui s'est passé dans cette période-là, et il faut quand même savoir le dire, en tant que chef d'entreprise, c'est que le gouvernement en place nous a suivis, nous a proposé beaucoup de choses. Il y a eu le chômage partiel, il y a eu les aides. Ça a permis aux entreprises de traverser cette crise qui était quand même très grave, hein, puisque 2020, pour rappeler, c'est pratiquement 60% de perte du chiffre d'affaires.
Et vous estimez que vous avez été bien aidé au fond?
Bah oui, surtout on a pu conserver nos équipes, et ça c'est très important. Le chômage partiel, c'est un point essentiel.
Olivier Fabre, ça m'intéressait de vous entendre juste après Aurélie, parce que vous dites, moi je voterai pour faire barrage à Marine Le Pen dimanche.
Je ne vais pas m'en cacher, non. Non, c'est très clair, oui. Mais en même temps, je reconnais à ce gouvernement, il a eu une période très difficile, parce que quand même le Covid, oui. Et puis maintenant la guerre, je sais qu'ils ont su prendre le taureau par les cordes, ils se sont battus.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on vient d'entendre une jeune femme de 24 ans qui nous dit, Marine Le Pen, elle s'adresse plus aux jeunes, l'avenir, pour moi, c'est Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Est-ce qu'il y a une question de génération?
C'est possible. Bah, il y a aussi la façon de s'adresser, puisque les vecteurs qu'on utilise, ça c'est très important.
Oui.
Les jeunes n'utilisent pas forcément les mêmes vecteurs. Les journaux, peut-être moins lus, peut-être moins les journaux, quand même. Il y a aussi la télévision. Mais il y a aussi des vecteurs, il faut savoir s'adresser aux jeunes par d'autres vecteurs. Ça c'est peut-être une remise en cause qui doit être faite. Pourtant, nous avons un président jeune, donc... Aïcha, il y a un travail à faire là-dessus.
C'est noté. Aïcha Itzouman est domicile depuis 20 ans à Châteaudun.
Oui, c'est ça.
Même chose, élément de présentation pour vous connaître un peu plus. Vous êtes à temps partiel?
Je suis à temps partiel. C'est ça, je suis à peu près à 32 heures par semaine.
Donc 1200 euros par
1200
mois.
Par, ouais.
Sans votre mari, ça passe pas.
C'est ah non,
ce que
ça
vous
passe pas. Hein. C'est, il faut être en couple pour vivre. Ouais. Quoi, faut vivre parce que je vois avec mes collègues où elles travaillent toutes seules avec à charge des enfants, c'est très difficile. Il faut savoir que
4 enfants, 4 filles, vous avez.
Oui, j'ai 4 filles
qui sont grandes.
Voilà. Ouais. Puis il faut dire que bon, aide à domicile, on a notre véhicule, ouais. Donc le carburant qui augmente et on n'est pas payé, on est 0,35 centimes le kilomètre. Ouais. Alors c'est très difficile.
Et un détail qui n'en est pas un, par exemple, les vacances. Il y aura peut-être pas de vacances cette année.
Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible avec un salarié pareil. Non, c'est pas possible. Non.
Alors vous, quand on vous a contacté pour préparer cette émission, Aïcha, vous saviez pas trop pour qui vous alliez voter. Est-ce que le débat a changé quoi que ce soit?
Non, pas du tout. C'est vrai que Monsieur Macron, il a parlé des aides à domicile parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui veulent rester à domicile. Oui.
Et vous avez choisi domicile. Vous trouvez que c'est plus humain qu'en EHPAD?
Oui, c'est plus humain. Voilà. C'est très humain qu'en maison de retraite. Ça, c'est clair.
Et donc le débat.
Et le débat, donc, c'est vrai qu'il veut faire des temps pleins à domicile.
Ouais.
Il faut, est-ce qu'il va revaloriser le salaire? Est-ce qu'il va augmenter? On ne sait pas. Il y a beaucoup de questions. Je vois qu'il donne 183 euros pour les aides-soignantes. Ouais. Mais nous aussi, on est presque des aides-soignantes. On fait des soins à domicile.
Vous les voulez bien, les 183
euros? Bien sûr qu'on les veut. Qu'on les veut, on se bat pour ça.
Hein. Bon, alors, on est à J-3. Oui. Vous m'avez dit, j'irai voter.
Oui, j'irai voter.
Et alors, vous allez choisir comment?
Eh bien, je ne sais pas. J'ai encore 3 jours pour réfléchir. Je ne sais pas encore. Ni l'un ni l'autre m'ont pas convaincu, franchement.
Vous allez parler avec la famille, regarder les programmes?
Oui, je regarde les programmes encore. On parle, on concerte entre familles, puis on verra.
Au premier tour, vous avez voté pour qui?
J'ai voté pour Mélenchon.
Pour Mélenchon. Donc vous faites partie de ces électeurs Mélenchon qui hésitent encore avant le second tour.
Voilà.
Autour de la table également, David Faucheux, s'est réallié à Thiville, vice-président de la FNSEA d'Eure-et-Loire. Même question qu'aux autres, le contexte économique, en quoi, quelles conséquences a-t-il pour vous? Comment ça se passe pour vous?
Alors le contexte économique, comme...
Vous faites du blé dur, surtout vous.
Du blé dur, oui, du blé tendre aussi pour la farine, le blé dur donc pour les pâtes, du maïs pour les animaux aussi. Donc tout ça, c'est des éléments qui étaient beaucoup produits en Ukraine, donc forcément une pénurie induite par les événements.
Oui.
Donc c'est des choses qui ont perturbé totalement les marchés.
Ouais.
Les marchés déjà qui étaient affolés par le Covid. Hein. Le Covid a déjà perturbé beaucoup. On a été présent pour satisfaire à l'alimentation du pays. Et donc aujourd'hui, c'est encore plus vrai.
Hier, lors du débat, et notamment à propos de l'agriculture, il a été question de l'Europe beaucoup. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Le côté Macron européen face à une Le Pen moins enthousiaste, c'est le moins qu'on puisse dire, pour l'Union européenne en tout cas.
Oui, l'Europe, on a vu que c'était quand même très utile en période de Covid. On a vu que même si on n'est pas toujours d'accord avec les objectifs de la PAC, avec... les conséquences que les réformes de la PAC ont eues sur notre département, on a quand même perdu plus de 30% d'aide depuis 10 ans. C'est pas négligeable par rapport à un niveau mondial. Mais malgré tout, je pense que pour favoriser les échanges, pour favoriser aujourd'hui, 50% des céréales d'Eure-et-Loire partent à l'étranger, sont exportées. Donc si on se referme sur nous-mêmes, que va-t-on faire de nos céréales?
Et donc de ce point de vue-là, votre choix à vous, c'est Macron plutôt que Le Pen?
C'est plutôt Macron, oui, tout à fait.
Aurélie, dans votre entourage, qu'est-ce qu'on se dit? Comment ça se passe, que ce soit en famille ou avec les copains? Un, est-ce qu'on parle de politique? Deux, est-ce qu'on vote Le Pen? Et comment ça se discute tout ça?
Alors oui, on parle de politique. Après, on fait attention avec qui on en parle parce que ça peut vite être mal interprété, en quelque sorte.
Ça m'a frappé sur le marché hier. Évidemment, on cherchait la parole de tous les côtés. Et honnêtement, sur le marché, quand on sort un micro France Inter et qu'on sent que quelqu'un vote Le Pen, c'est difficile de le faire dire. Ça reste un sujet tabou.
Ça serait pas tabou, mais c'est plus gênant. on va dire.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que, comme je vous dis, ça peut être mal interprété. Mmh. Les gens ne peuvent pas forcément comprendre ce que nous, on a en tête. Mmh. Et voilà, alors que pour moi, mes idées sont très très claires. Je sais pourquoi je serais plus sur Marine Le Pen que sur Emmanuel Macron. Mais par contre, j'ai plus de difficultés à en parler, tout simplement. Bah, comme je vous dis, c'est que les gens peuvent mal interpréter la chose. Et en interprétant mal, ça peut se retourner un petit peu contre nous.
Tout à l'heure, on entendait Hamid, qui est vendeur de fruits et légumes, qui disait « Je m'appelle Hamid, je voterai pas Le Pen. Sous-entendu, je suis d'origine maghrébine, je peux pas voter Le Pen. C'est contre moi. » Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Eh bien, elle n'a pas le même programme que 2017, tout simplement.
Elle a changé.
Elle a changé de programme. Ouais. Tout n'a pas changé, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ça, faut pas l'oublier, il faut prendre le temps, justement, ce que je disais, prendre le temps d'écouter les... Parce que l'un et l'autre ont à dire, tout simplement.
Olivier Fabre, sur le pouvoir d'achat, il y a eu pas mal d'échanges sur, au fond, ce qu'on peut demander aux chefs d'entreprise pour doper le pouvoir d'achat des salariés. Que ce soit les primes ou que ce soit les salaires. Emmanuel Macron disant « moi je fais des primes », Marine Le Pen disant « moi je fais du salaire », Emmanuel Macron lui répondant « mais vous n'allez pas obliger les entreprises à augmenter les salaires ». J'imagine que vous souhaitez que vos salariés gagnent le mieux leur vie possible. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter leur salaire ?
Il y a deux choses à faire. La première des choses, c'est qu'il y a effectivement, dans nos branches à nous, des négociations salariales qui sont lancées d'ici le mois de juin et qui seront forcément conséquentes, puisque c'est des métiers en tension et puis qu'on
et
veut...
Et vous cherchez, vous êtes en manque de main-d'œuvre, typiquement ?
Oui, on est en manque de main-d'œuvre et puis on a du personnel formé, qu'on a formé, qu'on tient à garder. Donc ça, c'est évident que ça ira dans ce sens-là. La deuxième chose, on a utilisé les primes Macron, puisqu'elles avaient quand même un avantage, en tout cas de rattraper rapidement sur un coup, en début d'année, tout ce qui s'est passé. Et bon, ça c'était déjà pas mal.
Typiquement, pour vos 15 salariés, vous leur avez donné combien de primes ?
500 euros.
500 euros chacun ?
De primes.
Ok. Donc les primes, augmenter les salaires, vous dites qu'il y aura la négociation, mais quand est-ce que la pression du politique, parce qu'au fond c'est ça le pari de Marine Le Pen, c'est dire on va inciter fortement, y compris avec des baisses de charges, les chefs d'entreprise à augmenter les salaires, jouable ou pas ?
Vous savez, ce qui fait avancer un chef d'entreprise, c'est son chiffre d'affaires, et c'est les clients. Si le business avance, automatiquement, ça rejaillit sur l'entreprise, c'est clair. C'est pas parce qu'on va donner des avantages, des primes. Moi, j'ai jamais beaucoup cru, d'ailleurs, à ces histoires d'avantages pour embaucher des jeunes, d'enlever des charges. J'y crois pas beaucoup à ça. Ce que je pense, c'est qu'il y a un contexte autour pour que ça fonctionne. Et là, les chefs d'entreprise, ils doivent jouer leur rôle. Là, ils le doivent aussi, et ils le feront.
Et vos jeunes, qui peuvent commencer très jeunes, en termes de pénibilité, ils accepteront de partir à la retraite à 64, 65 ?
C'est une question difficile, puisque ce sont quand même des gens qui ont commencé tôt. Mmh. Donc ils feront partie des carrières longues.
Ouais.
Donc j'ai pas, de ce que j'ai entendu, les carrières longues, de toute façon, seront, à mon avis, un peu moins impactées. Mais oui, ils sont beaucoup dans les carrières longues.
Et c'est un sujet, les retraites, que vous percevez comme un peu explosif, non ?
Pour le moment, non. J'ai beaucoup de... Alors, j'ai né beaucoup qui sont plus jeunes, hein, c'est pour ça. Ils n'en sont pas encore à savoir pour la retraite. Mais il est évident que les carrières longues, il faudrait y faire attention, parce que quand même, ce sont des gens qui commencent à travailler à 16 ans.
Aïcha, vous qui êtes aide à domicile, je me permets, pardon, de donner votre âge, puisqu'on parle des retraites.
Oui,
vous avez 58 ans.
58 ans.
Vous voyez travailler combien de temps encore ?
Ah bah, jusqu'à 62, mais pas plus. Hein, c'est pas possible. Hein. Là, je vois que M. Macron veut mettre la retraite à 65 ans. Nous, aide à domicile, je vois pas aller faire des soins, faire des soins à des personnes lourdes, même en utilisant du matériel. Non, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a la pénibilité. Je sais pas comment ça va se fractionner la retraite, comment il va le fractionner. Je sais pas.
Et les systèmes pénibilité,
voilà.
Est-ce que vous aurez à 62 ans toutes vos annuités ? Est-ce que vous partirez avec une retraite
non,
pleine ?
Non, pas du tout, parce que j'ai commencé très tard.
Très tard.
Ouais. Alors donc.
Si vous voulez toucher une retraite pleine,
non, je...
vous ne pourrez pas aller jusqu'à l'âge de la retraite.
Je ne peux pas aller jusqu'à l'âge de la retraite. J'ai déjà fait mon calcul. Normalement, 62 ans, je ne suis pas à temps plein. Ben, j'aurai une retraite vraiment ridicule. Je le dis bien.
Ridicule.
Voilà.
Et vous avez la somme ?
J'ai fait une estimation. J'aurai autour de 800 bruts.
800 bruts. David Faucheux, un céréalier, ça travaille jusqu'à quel âge ?
Ah, c'est...
Parce qu'il y en a
très variable. C'est très variable et c'est un métier de passion. Donc, ouais.
C'est pas une question pour le vote, pour vous, la retraite.
On sait qu'on n'aura pas de retraite.
Ah oui, pour c'est moi, à ce point-là. Ouais.
L'agriculteur n'a jamais eu une retraite conséquente, comme tous les chefs d'entreprise, je dirais. Il faut se la faire soi-même. Donc on en profite les bonnes années, les mauvaises années, ben. mais pour moi, non, c'est pas un critère de vote.
Encore un mot, Châteaudun, on le répète depuis le début de cette émission, vote comme la France, alors un tout petit peu plus haut que la moyenne pour Macron, un tout petit peu plus haut pour Le Pen, plus d'abstention. Les campagnes autour ont beaucoup voté pour Marine Le Pen. Vous, comment vous l'analysez ?
C'est une bonne question. C'est peut-être moins de documentation, plus de ras-le-bol.
Ras-le-bol de quoi ?
Bah, ras-le-bol du système. En effet, Marine Le Pen se présente comme changement du système depuis... Enfin, la famille Le Pen se présente depuis le changement du système depuis 20 ans ou 30 ans. C'est peut-être ça. Elle a des belles promesses, en effet. Le problème, c'est la justification financière. On a du mal à trouver le financement de toutes ces promesses.
Ouais.
Mais c'est vrai que sinon, d'un point de vue annonce... Il y a des belles annonces pour la campagne, même pour les agriculteurs, revenir à des produits locaux, consommer, éviter la diminution de production que l'Europe voulait nous imposer, même si Macron est revenu en arrière par rapport à ça. Tout cela, en effet, ça paraît bien, mais après, il faut justifier derrière du financement et des méthodes, comme hier, en effet, à chaque fois qu'on lui posait la justification... financement de la retraite, comment faire pour aller moins en Europe, quoi, pour se retirer de l'Europe, à chaque fois, ça botter en touche et aparté sur un autre sujet.
Faites attention, il y a Alexander Nikolic qui vous écoute juste derrière, qu'on entend dans un instant, délégué départemental du Rassemblement National. Merci à tous les quatre, merci beaucoup d'avoir accepté de parler au micro de France Inter. C'est pas toujours facile de parler politique et de dévoiler son vote, vous l'avez fait, merci infiniment. Un reportage de Yann Gallic à présent, une question clé dans des zones comme Châteaudun, le manque de médecins, les déserts médicaux. Sujet qui est beaucoup revenu dans cette campagne. On a voulu savoir ce qu'il en était à Châteaudun. C'est pas la ville la moins bien lotie. Il y a un hôpital, il n'y a plus de maternité depuis quelques années. Il y a deux centres de santé. Yann Gallic est allé dans l'un des deux, la maison de santé qui existe depuis 2012. Il y a une vingtaine de professionnels, généralistes, sages-femmes, infirmières, mais aussi cardiologues, gastro-entérologues et orthophonistes. Mais c'est encore juste.
Étage 1.
Bonjour. Je suis Laurent Priou, je suis médecin généraliste dans la maison médicale depuis 10 ans bientôt. J'ai 65 ans bientôt et donc je vais prendre ma retraite. Ça fait un an ou deux que je cherche un remplaçant. Heureusement, j'ai une interne qui va reprendre ma succession. En 10 ans, là, il y a 7-8 médecins qui ont pris leur retraite, qui n'ont pratiquement pas été remplacés. Donc on est tous blindés dans cette maison médicale, on est 5 généralistes et on prend pratiquement plus de nouveaux patients. Il y a quand même plusieurs centaines de personnes à Châteaudun qui n'ont pas de médecin traitant. C'est difficile quelquefois que les gens puissent trouver un rendez-vous rapide et il y a beaucoup de gens qui vont à l'hôpital aux urgences et qui engorgent les urgences.
Allez, on y va. 1, 2, 3.
On est dans une région malheureusement qui est un vrai désert médical. Au niveau des spécialistes, c'est encore plus important qu'au niveau généraliste. Pour voir un rhumatologue, quelquefois il faut faire 40 km, un neurologue encore plus. Tout est compliqué, il n'y a plus de maternité, ça on s'y attendait un petit peu, mais pour la population c'est embêtant.
Ici c'est la salle d'attente des médecins généralistes. Il y a quelques patients, une dame âgée avec des béquilles et une mère de famille qui est venue avec son bébé.
Il a quel âge, votre petit bébé ?
Bientôt 3 mois. Et là, je viens pour une consultation. Donc, c'est un préma. Il a été hospitalisé donc 2 mois. Et là, pour le coup, à l'hôpital d'Orléans. Je savais que j'allais accoucher donc à Orléans, mais c'est regrettable parce que les femmes doivent aller soit à Chartres, soit à Vendôme, soit à Blois. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout l'impression qu'on ait parlé des hôpitaux, enfin, toutes ces structures publiques que nous avons besoin, quoi. Ils ont réellement besoin de moyens.
Ces questions de santé sont primordiales et selon vous, elles n'ont pas été assez abordées pendant la présidentielle ?
Non, pas du tout, pas du tout. Alors oui, on va parler du pouvoir d'achat, je suis d'accord, c'est un sujet très, très important, mais il y a tellement d'autres sujets aussi à mettre sur la table et la santé en fait partie.
Et autour de la table ici au restaurant Le Bistrot, nous sommes installés jusqu'à 14h. Alexander Nikolic, bonjour.
Bonjour.
Directeur national des jeunes avec Marine Le Pen et président du groupe RN dans cette région du centre Val-de-Loire. Et bonjour Philippe Vigier.
Bonjour.
Député Modem d'Eure-et-Loire, membre de la majorité présidentielle. On vient d'entendre un reportage sur ce thème des déserts médicaux. Quand on est élu local ou représentant d'un coin, c'est un combat permanent de lutter contre les déserts médicaux, Philippe Vigier.
C'est un combat permanent, un combat que je mène depuis plus de 10 ans. J'ai été l'auteur de propositions de loi à l'Assemblée, d'une commission d'enquête parlementaire. À Châteaudun, nous avons la chance d'avoir une CTPS, communauté territoriale des professionnels de santé, qui fait qu'on a réussi à mettre en réseau des professionnels. Pour autant, faut savoir que ce sujet-là, il est dans toutes les têtes. Tous les habitants, naturellement. En plus, je suis biologiste, donc oui, je connais ce métier-là parfaitement. Et c'est un sujet sur lequel il va falloir continuer d'œuvrer. Ça passera par quoi ? Ce qu'on appelle la délégation de tâches. Et puis, dans cette région, il y a une très belle nouvelle qui est tombée avant-hier.
Allez-y.
C'est qu'une faculté de médecine va voir le jour à Orléans. Ça fait 30 ans que nous demandions. Et à Tours, nous ouvrons une faculté dentaire en septembre prochain. C'est un combat que nous avons
mené. Et donc, des étudiants en dentaire et en médecine, ça veut dire des professionnels qui vont rester dans le coin ?
Vous allez comprendre en une seconde. Dans cette région, 2 500 000 habitants, nous ne formons que 350 médecins. Il en faudrait 500, si vous prenez l'exemple de la Normandie. Mais il ne faut pas que des médecins. Il faut aussi d'autres professionnels de santé et faire ce qu'on appelle de la délégation de tâches, confiée à des infirmières, à des kinés, à des sages-femmes, à des pharmaciens, à des biologistes, des actes médicaux que faisaient les médecins.
Alexander Nikolic, le maire nous disait hier, lorsqu'on on a discuté, quand on est arrivé hier à Châteaudun, sa fierté qu'une machine IRM arrive à l'hôpital de Châteaudun. Se battre contre les déserts médicaux, là aussi, quand on est élu local, c'est...
Non mais c'est une priorité, surtout dans notre région. On est la région du désert médical. Pour arriver à la moyenne nationale, il faudrait qu'on ait 600 médecins supplémentaires, alors que la moyenne nationale présente un nombre de médecins déjà insuffisant. Donc il y a dans certains endroits 20% des gens qui, dans notre région, qui n'arrivent pas à avoir de médecins traitants. Enfin, donc c'est évidemment un grand problème. Le numerus clausus a été supprimé, mais on n'a pas plus formé de médecins. Là, on a perdu 5 ans. Ça va dans le bon sens d'avoir une nouvelle université. Il en faudrait encore beaucoup plus, oui, justement pour former plus de médecins, pour que il n'y ait pas aussi cette concurrence entre les territoires. Globalement, il y a un nombre de médecins suffisant sur l'ensemble du territoire, mais ça va mettre du temps. Ça met 8 ans pour former un médecin. Sûr. Mais provisoirement, effectivement, et je vais répondre vite fait sur la maire de Châteaudun, provisoirement, évidemment, il faut qu'il y ait des tarifs de consultation différenciés pour attirer des médecins sur les territoires où justement il manque de médecins. Et puis, il faut effectivement s'appuyer sur des moyens technologiques. Oui, la télémédecine fait d'énormes progrès. Pour l'instant, c'est de la téléconsultation assez simple, mais ça peut combler déjà un manque. Et il y a d'énormes progrès qui sont faits avec des capteurs, par exemple, 15 capteurs pour certaines télémédecines. Et il faut qu'on soit une région test, un territoire test, parce que c'est une urgence. Les gens doivent pouvoir se soigner normalement. Et j'ai pas parlé de l'hôpital, mais c'est un vrai sujet sur le plan d'austérité qui touche l'hôpital. En plus, on n'est pas
c'est
très
noté,
loin dans
le sujet.
Sur l'hôpital. Un mot sur l'hôpital.
Un quart de mot, je voudrais qu'on parle du débat aussi.
12,8 millions d'euros qui arrivent à Châteaudun pour l'hôpital. Pas simplement l'IRM. Les urgences, les consultations, la pharmacie, tous ces services. Et on formera, Alexandre Nikolic, non pas beaucoup plus des médecins, encore plus, puisque 350, disait tout à l'heure, contre 101 il y a 20 ans.
On voit que c'est un sujet qui vous tient à cœur tous les deux, Alexander Nikolic. Je voudrais qu'on parle du débat hier. On entendait l'un de nos invités agriculteurs à l'instant dire, dès qu'il s'agissait de financer le programme, Marine Le Pen, elle était floue.
Alors, elle a justement été très précise, et c'est la seule qui a présenté un projet équilibré. Elle a fait une conférence de presse sur le sujet.
Hier, dans le débat, elle n'était pas précise sur le financement.
Elle a parlé des recettes qu'on pourrait faire, notamment par rapport à la fraude, notamment en réduisant notre contribution à l'Union européenne, notamment sur le référendum sur l'immigration qui entraînerait une économie de 18 milliards. Là, les retraites, par exemple, c'était évoqué, c'est 17 milliards de coûts supplémentaires. Eh bien, c'est financé par des économies par ailleurs.
Et les financements, quand même, ils sont contestés.
Mais en tout cas, ce qui n'est pas contesté, c'est que sur le dernier quinquennat, Emmanuel Macron a augmenté la dette de 600 milliards.
Or, on sait que c'était la dette COVID.
Oui, mais c'est faux. Ça a été d'ailleurs contredit par certains de vos confrères qui démontrent que la crise Covid, ça a entraîné une dette supplémentaire de 165 milliards. Non, le résultat, c'est que le reste, c'est une mauvaise gestion. C'est des dépenses qui... n'allait pas dans le bon sens, des bons investissements et donc une mauvaise gestion financière. Et pour quelqu'un qui se présente comme le roi de l'économie, le résultat en tout cas n'y est pas.
Le RN, Philippe Vigier, appuie effectivement cette fin de campagne sur les dettes de Macron. Qu'est-ce que vous répondez ?
C'est simple, le quoi qu'il en coûte. qui a sauvé l'économie. Vous avez entendu chef d'entreprise tout à l'heure ce qu'il vous a dit. Si on a préservé les emplois dans ce pays, on nous expliquait qu'il y aurait massivement des faillites, mais pas du tout. Il y a un taux de chômage qu'on n'a jamais eu depuis 30 ans. Il a fallu mettre 420 milliards d'euros sur la table. Elle a essayé avec les catégories B, c'est... c'est trop important.
Ah bah oui,
ici,
oui, c'est important.
Châteaudun, on sait ce que c'est que le chômage. On sait ce que c'est que des hommes et des femmes qui ont...
C'est pas la ville où il y a le plus de chômeurs. Hein.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont partis parce qu'on manque de formation. Quand vous regardez, quand vous analysez les statistiques. Mais le programme de Marine Le Pen, il y a un petit sujet. Il n'est pas financé, il manque 100 milliards. Ça n'est pas moi, c'est l'Institut Montaigne. Et enfin, alors qu'elle veut être la présidente du pouvoir d'achat. Honnêtement, de supprimer l'impôt sur le revenu, au moins de 30 ans, quel que soit le revenu, c'est injuste. La TVA que l'on a piquée pour les riches et les pauvres, c'est injuste parce que lorsque quelqu'un a beaucoup d'argent, il peut payer une TVA à 20%. Moi, ce que je préfère, c'est que l'on aide les petits, ceux qui ont des petites retraites, qui seront d'ailleurs indexés sur l'inflation.
Pouvoir d'achat, mesure pas efficace, a dit Emmanuel Macron à Marine Le Pen hier. Entre mon bouclier et vos baisses de TVA, il n'y a pas photo. Qu'est-ce que vous répondez, Alexandre Nikolic?
Sur un territoire comme le nôtre, qui a vu une grande désindustrialisation, qui voit encore la base militaire fermée, eh bien le travail s'est éloigné. Et on voit des Français qui sont obligés de faire 50, 60 kilomètres pour trouver un emploi. Aujourd'hui, dans la période actuelle, les deux augmentations d'Emmanuel Macron de la TICPE en 2017 et en 2018, et le fait d'avoir cette TVA à 20%, le fait qu'on ait ce carburant le plus cher, eh bien c'est terrible pour ces gens qui doivent payer maintenant 400, 500 euros de carburant par mois. Comment on fait pour vivre quand on gagne 1500 euros par mois dans ces conditions? Oui, il faut des mesures d'urgence pour permettre aux gens de pouvoir payer beaucoup moins cher leur carburant.
Ça répond pas à la question.
Très concret.
Ça répond pas à la question. Bouclier fiscal, c'est plus efficace que les baisses de TVA en termes de pouvoir d'achat.
Le bouclier fiscal, il est provisoire et on a un problème par rapport à d'autres pays, c'est qu'on a des taxes trop importantes. Nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte, globalement, que nos entreprises dégagent plus de marge en baissant les charges, en baissant les taxes, et que les gens paient moins de taxes, tout simplement. C'est remettre en place un cercle vertueux, parce que ce que les gens gagneront en plus, ils pourront le consommer aussi, et ça rentrera dans l'économie. C'est aussi pour ça, parce que je veux juste souligner ça, parce que dans ce territoire, ce qui manque aussi, parce que à la fois, l'emploi s'est éloigné, mais il y a aussi des entreprises qui n'arrivent pas à trouver de salariés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'emplois non pourvus qui sont, demande une formation adaptée. Et on voit qu'il y a une vraie crise de l'apprentissage. C'est pour ça qu'on tient vraiment...
Même s'il a été lancé.
C'est pour ça qu'on tient vraiment, alors, avec ce qu'on propose de 5500 à 1000 euros de chèques pour inciter les jeunes à aller vers ces filières-là et de plus en plus jeunes, ces filières-là qui permettent souvent, en plus de créer des PME, des TPE et de combler ce manque, eh bien, ça permettra à notre économie de beaucoup mieux se porter, et surtout dans des territoires comme celui-là.
Philippe Duguay, apprentissage, vous dites, au contraire, c'est
faux. Il y avait 285 000 apprentis.
Je sais, il y en a 700 000 aujourd'hui, on a beaucoup de retard par rapport à l'Allemagne.
85 000 en deux... Non, mais ça vous embête.
Stop. Tranquillement, s'il vous plaît.
Il y avait 285 000 apprentis dans ce pays en 2017. Il y en a 720 000 maintenant. Le plan d'Emmanuel Macron, c'est justement de former. Vous avez entendu, chef d'entreprise, tout à l'heure, il a dit quoi? Je ne trouve pas des jeunes, je ne trouve pas des hommes et des femmes que j'ai pu former.
Ah, il confirme ce que je dis.
Enfin, sur les impôts. Non, pardonnez-moi. Le Front National, le Rassemblement National, n'a voté aucune baisse d'impôts. La taxe d'habitation, ils ne l'ont pas votée. La baisse de la fiscalité sur les entreprises et les ménages, 50 milliards d'euros, ils ne l'ont pas votée. Donc c'est facile de ne pas voter et après de dire, on va donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens.
Il reste 1 minute 30. Question la même à chacun. 3 jours pour convaincre. Quel argument mettez-vous en avant, Alexander Nikolic, pour dire aux gens, là, les intentions de vote qui ne sont que des sondages intentions de vote, ok, mais... montre plutôt une tendance en faveur d'Emmanuel Macron. Que dites-vous aux gens pour les convaincre d'aller voter et d'aller voter Marine Le Pen dimanche?
Alors que l'écart, il est quand même très faible. Marine Le Pen, elle est donnée entre 47% selon les sondages, mais on sait que ça peut être dans la marge d'erreur.
Plutôt et donc,
effectivement, elle peut l'emporter. Et je comprends que certains Français se soient détournés du vote parce que ils considèrent que la politique n'a pas su changer leur quotidien et ils ne voient pas l'utilité justement parfois de voter. Mais on peut les réconcilier avec la politique vraiment sur le fond, comme je l'ai évoqué depuis tout à l'heure, que ce soit sur le pouvoir d'achat où Emmanuel Macron a échoué, que ce soit sur la sécurité qui s'est envolée, que ce soit sur la santé et notamment les déserts médicaux et l'hôpital qui est en véritable crise, on peut améliorer et changer leur vie concrètement, mais aussi sur la forme. Il y a certains sujets qui ne sont pas évoqués.
10 secondes.
Par les référendums, notamment d'initiatives populaires citoyennes, ils pourront lever certains sujets, il pourrait enfin y avoir des débats qu'ils auront lancés, et c'est aussi ça la vie citoyenne et la vie démocratique, et vraiment qu'ils se mobilisent parce que le destin de ce pays et leur destin peut changer dans quelques jours.
Philippe Vigier, même question. 3 jours pour convaincre, quels arguments?
Dimanche, il faut aller voter. C'est un pays formidable. dans lesquels il y a démocratie, on peut la faire vivre dans la voter. Je souhaite que massivement, parce qu'il y a deux projets qui s'affrontent, celui de Marine Le Pen, une sorte de rabougrissement, de repli sur soi, de, on voit bien, elle essaye plus ou moins de sortir de l'Europe, elle cherche ses mots maintenant. Non, j'ai envie non, de dire simplement, en votant pour Emmanuel Macron, c'est demain le lien intergénérationnel, les jeunes, les aînés, le bien vieillir dont on va s'occuper. En votant Emmanuel Macron pour la santé qui a mis 30 milliards d'euros sur le Ségur, quand Marine Le Pen n'en propose que 20, en clair, mieux rémunérer nos personnels de santé. Vous voyez, ça nous ramène à des sujets. C'est une Europe forte. On voit ce qui se passe avec la crise en Ukraine, cette guerre en Ukraine. Sans Europe forte, on ne s'en sortira pas. Donc massivement, il faut voter pour un président expérimenté et qui en plus a réussi à être dans la peau du challenger.
Merci beaucoup à tous les deux. Sarah Guibaudeau qui tient le chrono me dit qu'on est à peu près à égalité de temps de parole. Merci de vous être prêté à cet exercice. Et voilà pour ce tour d'horizon des tout derniers jours de campagne vu d'ici à Châteaudun et ses 13 000 habitants qui votent comme la France. Un grand merci à tous nos invités et à l'équipe du restaurant Le Bistrot qui nous a accueillis ici au bord de la place du marché. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré dans un instant. Quel est le programme Mathieu?
On fera le lien entre la biodiversité et la santé planétaire, la fabrique des pandémies.
À tout de suite.